et de donner au Seigneur ce qu'il mérite, notre adoration. Il mérite que nous puissions mettre du temps à part pour lui, pour l'adorer, et que nous puissions être dans sa présence. Nous allons lire ce matin un texte qui se trouve dans le psaume 92. Nous allons lire le psaume 92 en entier. Psaume 92, voici ce qu'il dit. Il est bon de louer l'Éternel, de célébrer par des chants le Très-Haut, et de proclamer dès le point du jour ton amour. Tout au long des nuits, ta fidélité, sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre, ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie, et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien, le sot ne peut les comprendre. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, Éternel, tu es souverain pour l'éternité. Car voici tes ennemis, Éternel, car voici tes ennemis périssent, et tous ceux qui font le mal seront dispersés. Mais tu me remplis de force, je suis comme un buffle. Tu répands sur moi l'huile parfumée. Mon œil regarde sans peur tous mes détracteurs. Mon oreille entend sans crainte tous mes agresseurs qui s'emploient au mal. Car les justes poussent comme le palmier. Ils s'élèvent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse, et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront l'Éternel, combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. Et nous allons relire les versets 13 à 16, puisque c'est sur ceux-là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Car les justes poussent comme le palmier, ils s'élèvent comme un cèdre du Liban, bien plantés dans la demeure de l'Éternel. Ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher. On ne trouve en lui aucune injustice. Amen. Le thème de ce matin, puisque nous continuons dans ce que nous avons commencé, c'est planter dans la maison du Père. Planté dans la maison du Père. Nous avons lu le psaume 92. Et le psaume 92, c'est un psaume particulier parce que c'est ce qu'on appelle le psaume du sabbat. Le psaume du jour du Shabbat. C'est le psaume qu'on lit tous les samedis matins. Et c'est un psaume qui a été conçu exprès pour être un psaume que l'on chante, on ne le lit pas, on le chante, le samedi matin pour remercier Dieu. C'est un psaume de louange, un psaume de reconnaissance où on bénit l'amour de Dieu, sa fidélité, un psaume de reconnaissance parce que le jour du repos, c'est bien ça aussi sa vocation, c'est d'être le jour de reconnaissance. Reconnaissance au sens du terme « je reconnais ce que Dieu a fait, je reconnais que l'Éternel est le Créateur ». Lorsque l'on s'arrête un jour de la semaine que l'on met à part, on reconnaît que Dieu a fait toutes choses et qu'il s'est reposé. Il s'est reposé de son œuvre, il est le Dieu créateur. Donc le jour du repos, c'est un jour de reconnaissance de la création, du fait que Dieu est créateur, et c'est aussi un jour de proclamation de son amour. Parce que dans la doctrine chrétienne, ce que nous croyons, c'est que Dieu a non seulement créé le ciel et la terre, mais ce que nous croyons aussi, c'est que Dieu l'entretient chaque matin, l'entretient constamment. Vous savez que la parole de Dieu ne nous dit pas que l'univers fonctionne par lui-même. La Bible nous enseigne que Dieu entretient le monde. C'est Dieu qui fait fonctionner le monde. C'est Dieu qui permet que les planètes continuent à tourner. Il n'a pas seulement créé et puis il a été se reposer. Il est le Dieu qui continue à prendre soin de l'univers. Et donc, c'est un psaume de reconnaissance, un psaume de louange qui est chanté, qui est utilisé souvent. Et dans ce psaume, la particularité, c'est qu'il y a deux grands aspects. Le premier aspect, c'est justement la reconnaissance, la louange, l'adoration, la proclamation de la personne de Dieu, c'est la première chose. Et puis deuxièmement, dans le psaume, ce qu'on voit, c'est que le psalmiste nous présente le contraste, l'opposition qu'il y a entre le juste et l'injuste. Si vous avez bien lu le texte, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, le psalmiste compare le juste et l'injuste. C'est comme s'il fait le portrait d'une part du juste et d'autre part du méchant. On nous présente ces deux personnages-là, le juste et l'injuste, comme étant vraiment l'opposé des deux personnes qui n'ont rien à voir, le juste, l'injuste. Et c'est un thème qui revient souvent dans les psaumes. Notamment, vous connaissez le psaume 1, « Heureux l'homme qui se tient près de l'Éternel, qui ne s'assied pas près des moqueurs. » Donc, il y a toujours dans les psaumes ce contraste-là, cette dichotomie entre le juste et l'injuste. Et ce psaume aussi revient là-dessus. Et vous avez vu que le verset 8 nous dit « Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. » Dans les psaumes, très souvent, les psalmistes reviennent sur cette question terrible que parfois nous pouvons être amenés à nous poser, c'est « Pourquoi les méchants réussissent-ils ? » C'est le psaume 73 notamment. C'est une question qui revient très souvent dans la Bible. C'est que les enfants de Dieu se demandent comment est-ce qu'il est possible que des méchants, que des gens qui s'opposent à la loi de Dieu, qui sont rebelles à Dieu, puissent quand même réussir. Et dans ce psaume-ci, le psalmiste, quelque part, amène un début de réponse à la question en disant que lorsque les méchants réussissent, c'est pour peu de temps. Lorsque les méchants réussissent, lorsqu'ils ne se préoccupent pas de Dieu, lorsque ça fonctionne bien pour eux, ça fonctionne, mais pour peu de temps, alors que le juste, lui, il est planté dans la maison de l'Éternel. Le juste, lui, il réussit pour longtemps. Le juste, lui, il tient bon. Et ce qui est particulièrement instructif dans ce psaume 92, ce sont ces versets 13 à 16, où, à côté de la réussite éphémère du juste, on nous présente, de l'injuste, pardon, on nous présente le portrait du juste. Les versets 13 à 16. Où est le juste? Où est l'enfant de Dieu? L'enfant de Dieu est dans la maison de l'Éternel. Les versets 13 à 16 nous disent qu'il est bien planté dans la demeure de l'Éternel. C'est là qu'est le juste, bien planté dans la demeure de l'Éternel. Il est bien enraciné, il est bien ancré. Ses fondations sont profondes, elles sont sûres, elles sont inébranlables. Le juste, il pousse. Il est écrit que, car les justes poussent comme le palmier, le juste pousse, il grandit, il croît, il va de l'avant, son sommet monte, il va dans les hauteurs. Le juste fleurit, il a un bel aspect extérieur, il a un feuillage qui ne se flétrit point, il a une belle apparence extérieure. Le juste est fécond. Il est fécond même quand les années passent. Il montre de belles qualités. Il est florissant. Le juste proclame qui est Dieu. Le verset nous dit, le juste, ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher. On ne trouve en lui aucune injustice. Voilà le portrait du juste. À côté de cet injuste qui va réussir pour un certain temps, qui va s'amuser, qui va s'éclater, qui va acheter des maisons, qui va avoir de l'argent, qui va tromper, qui va ceci, qui va cela, le juste, lui, est dans la maison de l'Éternel. Il est dans la maison de l'Éternel pour un long temps, il résiste. Et l'image qui est choisie pour nous parler du juste, il y en a deux, c'est celle du palmier et celle du cèdre du Liban. Alors, le palmier, lui, est caractérisé par le fait qu'il résiste à la chaleur du désert. C'est un arbre qui est au beau milieu de nulle part, qui tire son eau de on ne sait où, mais qui demeure. Le palmier, il fait, dans le désert, il fait près de 50 degrés, ou si pas plus, à certains endroits. Le désert, c'est absolument affreux, mais le palmier, il continue à fleurir, il tient bon malgré la chaleur. Et puis, la deuxième image qui nous est montrée pour nous parler du juste, c'est le cèdre du Liban, qui est considéré comme étant un des arbres les plus majestueux. C'est un arbre absolument magnifique. Et c'est un arbre qui résiste aussi au soleil, mais qui résiste aussi à la neige, puisque ce sont des endroits où il arrive aussi qu'il neige. On nous présente le juste comme, en disant ces deux images-là, le cèdre, le palmier, le juste, il est comme ça. Il est au beau milieu de nulle part, il est dans des conditions qui ne sont pas les meilleures, mais il tient bon, il continue à fleurir, il continue à être florissant, il continue à servir à quelque chose. Et donc, le psaume nous donne cinq grands points, cinq grandes caractéristiques du juste que nous allons voir. Premièrement, l'enracinement. Le juste est enraciné, il est ancré, il est attaché, il est affermi. Deuxièmement, la croissance. Il grandit, le cèdre du Liban. Il va de l'avant, il monte. Troisièmement, la floraison. Il fleurit. Il fleurit, son aspect est attirant. Il est beau à voir. Quatrièmement, la fécondité. Il porte du fruit. Il porte du fruit. Il n'est pas stérile, il sert à quelque chose, on peut en tirer quelque chose. Et puis cinquièmement, il proclame qui est Dieu. Il témoigne de qui est Dieu. Premièrement, l'enracinement. Le juste, les justes que nous sommes enracinés dans la maison de l'Éternel. Et cet enracinement-là, ce n'est pas un enracinement qui vient de notre propre volonté, ce n'est pas un enracinement qui vient parce que nous avons envie, c'est un enracinement qui vient à cause de l'œuvre de Jésus. C'est Jésus qui, par son sacrifice, lorsque nous l'avons reçu, nous a transplantés dans son royaume, nous a transplantés dans la maison du Père, et nous a permis de nous enraciner en lui. Donc nous avons ce statut d'enfant de Dieu enraciné, encastré, ancré dans la maison de l'Éternel par l'œuvre de grâce de Jésus-Christ à la croix. Alors, notre frère Richard Doulière a bien résumé cette position-là dans laquelle nous sommes, à la page 36 de son livre. Il dit, l'enfant de Dieu, il est né de Dieu et membre de la fratrie céleste du Christ. Nous sommes nés de Dieu et nous sommes membres de la fratrie céleste du Christ. Nous sommes destinés à devenir semblables à son image, réconciliés avec lui, sauvés de la condamnation. Nous sommes au bénéfice de la propitiation opérée par le sang d'une victime innocente pour un pardon sans cesse renouvelé. Un pardon sans cesse renouvelé. C'est-à-dire que ce sang de Jésus qui coule à la croix, il coule une fois pour toutes, mais il continue à nous assurer le pardon. Notre péché est couvert et notre dette est remise. Nous sommes regardés comme justes en raison de notre foi. Nous sommes assurés de la fidélité de Dieu. Nous sommes bénéficiaires de ses promesses, héritiers de Dieu, cohéritiers avec Christ. Et nous sommes bénéficiaires du rachat. Nous sommes rachetés de la puissance de Satan. Jésus a payé pour nous la rançon. Voici ce que Christ a fait pour nous. Voici la position dans laquelle il nous a mis. Il nous a transplantés dans la maison du Père. Et nous avons cette position de juste. Nous sommes ces justes-là. Et donc, l'enracinement, sa source, c'est d'abord l'œuvre de Jésus. Mais après cette œuvre de Jésus, que nous avons reçu par pure grâce, cet enracinement doit être continué dans nos vies par des efforts, sur base de la grâce que nous avons reçue, sur base de cette position que nous avons reçue d'être inscrit dans le livre de vie et d'être transplanté dans la maison de l'Éternel. Dieu nous appelle à produire des efforts pour continuer cet enracinement dans le sol, cet enracinement en Dieu, cet enracinement dans sa volonté, cet enracinement dans sa maison. Vous connaissez certainement le Deutéronome 6, 4 à 9, qui est un des versets les plus essentiels de la Bible. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Je suis enraciné dans la maison de mon Père par grâce, mais cet amour de Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, va nous permettre de continuer à faire baisser nos racines dans le sol, à nous enraciner toujours plus dans le sol. Et puis il continue et il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Nous nous enracinons lorsque les commandements de Dieu restent dans notre cœur. Dans notre cœur. Ces commandements que je te donne seront dans ton cœur. Enracine-toi. Ces commandements seront dans ton cœur.
Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Les commandements de Dieu, non seulement dans ton cœur, tu en parles à tes enfants, ils sont dans ta maison. Et tu en parleras quand tu iras en voyage. Tu en parleras quand tu te coucheras. Tu en parleras quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Waouh ! Il n'y a pas de place là pour le chrétien qui tient compte des commandements de Dieu juste le dimanche matin. Il n'y a pas de place là pour le chrétien qui boit, je pense que la Bible me dit, tout le temps, tu en parleras quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, ils seront dans ton cœur, ils seront dans ta bouche, tu les inculqueras à tes enfants. Voilà notre enracinement. Cet enracinement dont nous avons besoin, nous l'avons reçu par grâce. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons cette position-là, mais nous avons besoin de la continuer. Et c'est ça tout. Tout l'exposé du frère Doulière, c'est de montrer à quel point nous avons besoin, sur base de la grâce que nous avons reçue, de continuer cet enracinement pour grandir et atteindre notre maturité spirituelle. Nous avons besoin de nous enraciner, de nous ancrer, d'intégrer la parole de Dieu, qu'elle soit dans notre cœur, qu'elle soit dans nos paroles, qu'elle soit dans notre vie. Quand on voit ça, on voit qu'il n'y a pas de place ici pour une vie dans laquelle la parole de Dieu est mise dans un petit coin, dans la niche du chien, ou une vie dans laquelle on tient compte des commandements de Dieu de temps en temps. Oui, on nous parle d'une vie consacrée. Ces commandements seront dans ton cœur, tu en parleras dans ta maison. Quel attachement aux commandements de Dieu. Et c'est ça qui fait notre enracinement. Lorsque nous prenons la parole de Dieu à cœur, nous prenons à cœur de la vivre. La parole de Dieu commence à devenir plus bruyante dans notre maison que les émissions télévisées, plus présente que les débats à la radio, et plus présente que les discussions sur la météo. La parole de Dieu commence à prendre de la place. Quand on vous dit, t'en parleras quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, ça fait déjà beaucoup, hein. Quand tu sortiras, quand tu rentreras, quand tu iras en voyage, donc tu dois en parler tout le temps. Et ce n'est pas du tout l'attitude du pharisien qui parle pour embêter son monde et pour casser les pieds. C'est l'attitude de l'enfant de Dieu qui réellement sent qu'il est enraciné. C'est sa vie, la parole de Dieu. Et donc, non seulement nous allons commencer à nous enraciner par cet amour pour Dieu, cet amour pour le Seigneur, par cet attachement à ses commandements, mais nous allons aussi nous enraciner encore plus par l'engagement que nous allons avoir envers Dieu, notre engagement, l'engagement de notre cœur, notre engagement à donner la première place à Dieu dans nos vies, l'engagement à donner à Dieu la première place dans nos vies, la première place, la place la plus importante, la place la plus essentielle, la place qui est sur le trône, c'est là qu'il est censé se trouver. Et comment est-ce qu'on mesure? Comment est-ce qu'on mesure l'amour pour Dieu? Comment est-ce qu'on mesure? On le mesure par qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour Dieu? Qu'est-ce que je suis prêt à laisser pour Dieu? Jusqu'où je suis capable d'abandonner pour Dieu? Celui qui est fiancé avec sa fiancée ou le mari ou sa femme ou quoi que ce soit, on va mesurer son amour à qu'est-ce qu'il est prêt à laisser pour moi? Est-ce qu'il est prêt à laisser son foot? Est-ce qu'il est prêt à laisser ses activités pour moi? Notre engagement à donner à Dieu la première place dans nos vies. Notre engagement à chercher à plaire à Dieu. Notre engagement à chercher à croire à ses promesses. Notre engagement à nous installer avec stabilité dans l'Église, dans la communauté chrétienne, nous installer avec stabilité. Notre engagement à considérer les peines et les joies de nos frères comme étant les nôtres. Notre engagement à contribuer financièrement à l'avancement du royaume, ce sont toutes ces choses qui vont contribuer sans cesse à notre enracinement, enraciné dans le sol, enraciné en Dieu. Le texte nous dit « bien planté dans la demeure de l'Éternel, bien planté ». C'est là notre position et nous avons tout à gagner à continuer à nous enraciner en donnant à Dieu cette place de choix, en donnant à sa parole une place majeure, une place importante dans notre vie. Nous continuons à nous enraciner. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avions parlé de la parabole des trois petits cochons. Oui, elle n'est pas dans la Bible, hein, mais... oui, mais... c'est une parabole quand même, hein, ça ne change rien. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quand nous bâtissons sur les commandements de Dieu, quand nous bâtissons sur base de la parole de Dieu, nous bâtissons avec de la pierre. Nous bâtissons avec de la pierre. Et le grand méchant loup peut venir. Il peut souffler très très fort. Mais il ne peut pas rentrer chez nous. Et même s'il essaie de rentrer par la cheminée, il y a toujours de quoi nous protéger. Et peut-être que très souvent, dans nos vies, et surtout quand on fait de la cure d'âme, quand on fait de l'accompagnement pastoral, très souvent on est amené à dire aux gens, « Oui, mais ce qui t'est arrivé là, au moment où ça t'est arrivé, quel était ton enracinement ? Quel était ton enracinement ?» Parfois, on est très déçu de ce qui nous arrive, de comment est-ce qu'on chute, de comment est-ce qu'on perd la maîtrise de ce qui est devant nous, de ce qui... Quel était ton enracinement ? Nous avons besoin d'être enracinés. Nous avons besoin de tenir compte de la parole de Dieu. Et ce sont des tests simples à faire. Quand j'accomplis une action, est-ce que je peux la justifier par la parole de Dieu ? Est-ce que j'ai des versets qui confortent ce que je fais ? Est-ce que je fais des choses sur base de ce que Dieu dit ? Sur base de ce que j'ai envie, sur base de ce qu'il me dit, c'est tellement essentiel l'enracinement. Parce que sinon, nous dit Jésus, la pluie va tomber, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, la pluie tombe. La pluie tombe, on peut faire ce qu'on veut, même si on n'a pas envie, la pluie tombe. Les torrents viennent. Il se passe plein de choses autour de nous. Si nous ne sommes pas enracinés, notre maison va être embarquée. Le grand méchant loup va souffler et effectivement, il va réussir à nous avoir. Mais la promesse de Jésus, c'est que ceux qui fondent leur vie, qui fondent leurs activités, leur famille sur la parole de Dieu, ils l'auront bâtie sur le roc. Et la pluie pourra venir, les vents vont souffler, mais elle restera établie sur le roc. Premièrement, l'enracinement. Deuxièmement, la croissance. La croissance. Le palmier et le cèdre, ils grandissent, ils évoluent. Ils ne restent pas toute leur vie des petits arbres ou des comment est-ce qu'on appelle les trucs là ? Les bonsaïs. Le cèdre, c'est pas un bonsaï. Vous êtes d'accord avec ça ? Le palmier, c'est pas un bonsaï. Ça grandit, ça évolue. Nous ne sommes pas appelés à rester des bonsaïs spirituels. Et pourtant, c'est le danger qui nous guette. Nous sommes appelés à croître. L'apôtre Pierre nous dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. » Nous sommes appelés à croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. Croître, grandir. Je dois aller plus loin que là où j'étais hier. Je dois aller plus loin que là où j'étais l'année passée. Je dois grandir dans la grâce, grandir dans la connaissance de Jésus. Grandir. Le cèdre, il est là, il est bien enraciné dans le sol, bien enraciné dans la demeure de Dieu, et il grandit. Le docteur Charles Stanley, qui est pasteur de la First Baptist Church aux États-Unis, une église de 15 000 membres. Non, on arrive pas en retard, hein? Parce que si on arrive en retard, il y a toujours un musicien. Non, mais c'est donc une église baptiste. Et ce pasteur-là a défini 13 critères pour la maturité spirituelle. Je ne vais pas dire les 13 aujourd'hui parce que je vais juste en choisir 5 et je mettrai les autres sur le site. Donc ceux qui veulent voir les autres, vous irez voir sur le site. Il a appelé ça baromètre pour évaluer la maturité spirituelle. Je donne 5 exemples. Avoir une plus grande soif de Dieu. Premier critère qui donne de la maturité. Avoir une plus grande soif de Dieu. Ça veut dire être dans un état où on a toujours envie d'en connaître plus sur Dieu, d'être toujours plus proche de Dieu, toujours plus avec Dieu. On a chanté tout à l'heure, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Cette soif de découvrir Dieu, Seigneur, je veux te découvrir un peu plus chaque jour. Je veux découvrir ton cœur. Je veux découvrir ta volonté sur ma vie, ta volonté sur ce que je fais, ta volonté sur mon avenir. Je veux te découvrir cette soif de la connaissance de Dieu, cette soif de la compréhension de qui est Dieu. Premier critère qu'il a donné, avoir une grande soif de Dieu. Quand on est mature spirituellement, on a soif de Dieu. Soif de lui, soif de lui. Seigneur, je veux te connaître, je veux te découvrir, je veux connaître ta parole, je veux connaître ta volonté. Il y a une sœur de la région qui a composé un chant, et ce chant, il dit, Seigneur, tous les jours, je voudrais faire de toi mes délices, tous les jours, je voudrais partager ton avis. Partager ton avis. Seigneur, je veux partager ton avis. Je veux partager ton avis sur ma vie, ton avis sur la politique, ton avis sur la nourriture, ton avis sur les relations humaines, ton avis sur le mariage. Je veux partager ton avis, Seigneur. Je veux avoir le même avis que toi. Deuxièmement, un autre exemple de notre maturité spirituelle, un autre critère, être de plus en plus conscient de nos péchés. Plus nous grandissons spirituellement, plus nous devenons conscients de nos péchés. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui fait de nous des enfants de Dieu, il combat. Il essaie de nous amener toujours plus vers la sanctification. Donc il combat quelque part la nature pécheresse que nous avons en nous. Lorsque nous grandissons spirituellement, nous devenons de plus en plus conscients de ce qui ne plaît pas à Dieu. Ce que nous faisions hier en toute indifférence, aujourd'hui nous nous rendons compte que waouh, ça ne plaît pas à Dieu. Je le faisais en toute impunité, ça ne me dérangeait pas, mais maintenant que j'y réfléchis, ça ne plaît pas à Dieu. Dans ma relation avec l'argent, dans les paroles, dans les actions, on se rend compte de ce qui ne plaît pas. On devient de plus en plus conscient de nos péchés. Un autre exemple, maturité spirituelle, c'est voir toute chose, bonne ou mauvaise, comme venant de la part du Seigneur. Un autre critère. Désirer ardemment parler de Christ aux autres. Le feu du témoignage. Un autre critère spirituel, un autre critère de la maturité spirituelle qu'il a donné, c'est avoir la foi pour demander des grandes choses à Dieu. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez, Seigneur, ôte cette montagne de là et qu'elle aille se jeter dans la mer. Et un dernier critère, comme exemple qu'il a donné, c'est donner la priorité à la prière personnelle, donner la priorité à notre relation personnelle avec Dieu, notre dévotionnel, comme on dit. La croissance spirituelle, nous avons besoin de croître spirituellement. Nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'évaluer notre croissance spirituelle. Je dois savoir où j'en étais en 2016. Parce que c'est moi, c'est pas une compétition, c'est pas entre moi et Tina. De dire est-ce que Tina prie plus que moi, est-ce que je prie plus qu'elle, c'est pas une battle. Tina a déjà gagné. C'est moi par rapport à moi, c'est moi par rapport à Dieu. Je dois savoir où j'en étais en 2016. Combien de chapitres de la Bible je lisais par semaine en 2016? Combien j'en lis en 2017? Est-ce que j'avais une vie de prière personnelle en 2016? Si oui, comment elle était? Comment est-ce qu'elle est en 2017? Est-ce que j'arrivais à témoigner en 2016? Et maintenant, en 2017? Comment est-ce que je contribuais à l'œuvre en 2016? Et maintenant, nous devons savoir comment est-ce que nous grandissons spirituellement. Nous devons nous poser cette question-là, de dire, où est-ce que j'en suis, moi, finalement? Et quelle grâce que ce ne soit pas une compétition! Et quelle grâce que personne ne soit là pour nous dire « tu dois, tu dois, tu dois ». C'est nous par rapport à Dieu. Nous avons besoin de grandir spirituellement. Grandir spirituellement. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4, verset 18. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Nous sommes appelés à croître. Quatrièmement, Quatrième caractéristique de ce palmier, de ce cèdre, de ce juste que nous sommes. On n'est pas au quatrième ? Troisième. Troisièmement. Merci. Evelyne va encore me taper à la fin du culte. Pardonne-moi, Evelyne. C'est pas que je n'écoute pas tes conseils, mais bon. Quand on est fou, on est fou. Hein. Bon. Donc, troisièmement, la fécondité, la vigueur, le juste qui est planté dans la demeure de l'Éternel, il porte du fruit. Il a une vigueur. Il porte du fruit. Jésus nous dit, on en a parlé beaucoup, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruit. Nous sommes appelés à porter du fruit. Et c'est un thème qui revient dans toute la Bible. Dans toute la Bible, Dieu nous appelle à porter du fruit. Ce qui a fait dire à certains que Dieu aime la productivité. Dieu aime que là où il investit quelque chose, il ressorte quelque chose. Vous connaissez la parabole des talents. Vous connaissez la parabole des talents. Et quelqu'un l'a résumé très bien. Il l'a résumé d'une façon extraordinaire. Il a dit, on doit toujours rendre plus que ce qu'on a reçu. On doit toujours rendre plus que ce qu'on a reçu de Dieu. Waouh ! Et encore une fois, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas une compétition. Si toi, tu as reçu 2 et que tu finis avec 4, ben, tu as rendu plus. Si moi, j'ai reçu 1 et que j'en ramène 5, ben, j'ai rendu plus. Dieu nous appelle à porter du fruit. Dieu aime investir et que ça rende quelque chose. Le juste qui est dans la maison de son père, il reste fécond jusque dans sa vieillesse, nous dit le verset 15, et ils resteront pleins de sève et pleins de vigueur. Les fruits, nous sommes appelés à porter, nous dit Jésus, un fruit qui demeure. Il nous appelle à porter un fruit abondant, un fruit durable. Quand la Bible parle de fruits, elle parle de résultats visibles, palpables, utiles, agréables, qu'on peut toucher. Un fruit, ça a une odeur, ça a un goût, ça se mange, et c'est utile pour préparer toutes sortes de plats. Un fruit, ce n'est pas un truc invisible. Un fruit, c'est un truc qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qui a une couleur, qui a une odeur. Un fruit, ça, c'est utile pour nous. Ça sert à quelque chose, un fruit. Nous sommes appelés à porter un fruit qui demeure. Un fruit qui sert à quelque chose. À apporter à Dieu quelque chose qui lui serve. Quelque chose qui serve aux autres. Avec une pomme, on peut faire plein de choses. Avec des pommes, on peut faire la compote de pommes. Avec une pomme, on peut faire de la tarte aux pommes. Avec une pomme, on peut faire du jus de pomme. On peut faire une tarte tatin. On peut faire un crumble. Vous avez déjà mangé un crumble ? Ah oui ? Ah, Natacha fait des crumbles, mais elle n'en apporte jamais à l'église. Hein. J'ai jamais goûté, moi, Natacha, ton crumble, c'est bizarre. C'est pas grave, je viendrai en goûter. Parce que c'est très bon, le crumble. Quand c'est bien fait, évidemment. On peut faire des pommes au four, on peut faire plein de choses avec une pomme. Nous aussi, nous sommes appelés à porter un fruit avec des fruits avec, qui servent à quelque chose. Les anciens disaient, une pomme chaque matin éloigne le médecin. Ça sert à quelque chose, une pomme. Éphésiens 2,10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés par Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Toutes sortes de bonnes œuvres. Nous sommes appelés, Éphésiens 2,10, nous sommes appelés à porter toutes sortes de fruits, toutes sortes de bonnes œuvres doivent sortir de nous. Des bonnes œuvres, c'est l'encouragement des frères et des sœurs. Être un encouragement pour les frères, pour les sœurs. Intercéder pour les frères, pour les sœurs. Intercéder pour les chrétiens dans le monde. Ce sont des fruits que nous portons, ça. Le soutien des gens qui sont dans la souffrance, des gens qui sont en difficulté. La participation à l'édification commune dans l'Église. La Bible nous dit, édifiez-vous les uns les autres, entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, apportez quelque chose en édification à l'Église. C'est un fruit, ça. Édifier, participer à l'édification. Encourager les endeuillés. Communier avec les joies des autres. Les fruits que nous portons, ce sont les âmes que nous gagnons pour le Seigneur. C'est le service que nous rendons dans l'Église. C'est l'exercice de l'hospitalité. C'est le secours des pauvres. C'est la bénédiction des familles, la bénédiction des couples. C'est apporter la lumière dans nos lieux de travail, apporter la lumière dans nos écoles. C'est conseiller les personnes désorientées, les personnes qui ne savent plus où elles en sont, qui ne savent pas quoi faire. C'est développer nos dons, nos talents. Il y a tellement de fruits qu'on peut porter, tellement de fruits. Et le texte du psaume 92, il ne nous dit pas seulement que le juste porte du fruit dans sa vie spirituelle, il porte du fruit dans toute sa vie. C'est toute sa vie qui est florissante, c'est tout ce qu'il fait qui lui réussit. Nous sommes appelés à porter un fruit. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse, nous dit la Bible. Ils seront féconds jusqu'à leur vieillesse. Nous sommes une église où il y a beaucoup de personnes âgées. Il y a une bonne partie de l'église qui a plus de 60 ans. Tous ceux qui ont plus de 60 ans, sachez que vous êtes dans ce qu'on appelle le troisième âge. Et toi, dans le quatrième. Hein ? Et on en a beaucoup. Toi aussi dans le quatrième. Oula ! Et quelque part, quelle grâce c'est d'avoir des gens qui correspondent à ce verset, qui restent féconds jusque dans leur vieillesse. Des gens qui sont encore là, qui malgré les années, malgré le temps qui passe, malgré les épreuves qui viennent, malgré les difficultés, ce ne sont pas des gens qui ont eu une vie toujours facile, ce ne sont pas des gens qui ont rigolé tous les jours, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours bien plantés, bien enracinés, et ils continuent à porter du fruit. Quelle grâce ! Être jeune et courir très vite, c'est très bien. Mais le tout, c'est de courir longtemps. Quelle grâce d'avoir dans nos communautés des personnes âgées qui courent depuis des années. C'est sûr qu'ils courent moins vite qu'à 20 ans, mais ils courent toujours. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ça. Parce que parfois, on a tendance à dire, « Ouais, mais les jeunes, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de jeunes. » Oui, mais d'accord, il n'y a pas de jeunes, mais... Bénissons Dieu pour les vieux qui sont encore là et qui continuent à glorifier le Seigneur, à témoigner, à faire l'œuvre de Dieu. Parce que, évidemment, si c'est être vieux et ne plus produire aucun fruit, bon, ça ne sert à rien. Mais si on est vieux et qu'on continue à glorifier Dieu, quelle grâce! Quelle grâce! Ils resteront féconds jusque dans leur vieillesse et ils resteront pleins de sève et pleins de vigueur. Ils continueront à porter du fruit. Et puis, quatrièmement, la quatrième caractéristique de... Ah oui, non, il y en avait une qui manquait. C'est pas grave. Bon, on est aux quatre, hein. Ah oui, voilà. Mais c'est le même, hein. Porter du fruit. Ne compliquez pas les choses. C'est déjà assez compliqué comme ça. Bon. Quatrièmement, et ça, je ne l'avais pas dit au début, la longévité. La longévité, la persévérance, la résistance. Le palmier, le cèdre qui est planté dans la maison de l'Éternel, le verset 15 nous dit qu'il reste fécond et ils resteront pleins de sève. Il a une longévité. Il tient bon sur le long terme. Ce n'est pas juste, il n'est pas juste planté là pour quelques temps, pour quelques... Il tient bon sur le long terme et il résiste. Il résiste. À plusieurs reprises, la parole de Dieu nous parle de cet arbre planté près d'un courant d'eau. Dans le psaume 1, l'arbre planté près d'un courant d'eau, c'est celui qui médite la parole jour et nuit. Dans Jérémie 17, celui qui est planté près d'un courant d'eau, c'est celui qui se confie en l'Éternel. Et chaque fois qu'on nous présente cette image-là, eh bien, on nous parle du fait que cet arbre-là, il résiste. Il résiste. Il résiste à la chaleur. Il résiste à la sécheresse. Il résiste au temps qui passe. Il résiste aux épreuves du changement de saison. On le sait pour nous humains, à quel point le changement de saison est parfois difficile dans notre corps. On a du mal à s'adapter. Celui qui est planté dans la maison de l'Éternel, il résiste. Il résiste aux épreuves. Il résiste. Et quelque part, nous ne devons pas nous affliger d'avoir des épreuves. Nous devons plutôt nous réjouir d'y résister. Malgré les épreuves, je suis encore là. Malgré les difficultés, je suis encore là. Il résiste aux épreuves, il résiste aux tribulations, il résiste à l'épreuve du temps, il résiste même au changement de milieu, il résiste aux tentations, il résiste aux chutes. La Bible dit que le juste tombe cette fois et il se relève. Il résiste. La longévité. Ainsi donc, celui qui est planté dans la maison de l'Éternel, il est résistant et il est constant dans ses dispositions. Constant dans ses dispositions. Si vous avez déjà lu le Proverbe 31, c'est quoi le Proverbe 31 ?
C'est la femme vertueuse.
La femme vertueuse, voilà. Si vous lisez le Proverbe 31, la femme vertueuse, ce qui est caractéristique de cette femme-là, c'est que c'est une femme qui n'est jamais fatiguée. Bon, évidemment, les vraies femmes, elles sont toujours fatiguées. Ça leur arrive d'être fatiguées. Pardon, c'est un lapsus. Les vraies femmes sont fatiguées. Mais le Proverbe 31 nous montre cette constance de la femme vertueuse. Et certaines traductions dans les Bibles catholiques ont dit la femme forte. Et ce qui est beau dans cette femme-là, c'est que c'est une femme qui reste constante dans ses dispositions. C'est une femme qui ne se décourage pas. C'est une femme qui n'abandonne pas. C'est une femme qui ne fouille pas. C'est une femme qui continue sa mission. Elle est là, elle est attachée, elle continue, elle tient bon, elle persévère. Comme dit la Bible, elle ne se lasse pas de faire le bien. Et pour nous aussi, elle est un modèle. Pour nous, que nous soyons femmes ou pas, que nous soyons mères au foyer ou pas, ou que nous soyons travailleuses ou quoi, c'est un modèle. Cette constance dans les dispositions, cette constance dans le service de Dieu, cette constance, cette force de toujours continuer, de toujours faire confiance à Dieu, de toujours aller de l'avant, de toujours tenir bon malgré les difficultés. Cette constance. Cette femme, elle est constante dans ses engagements. Elle s'engage, mais elle s'engage de manière constante. C'est peut-être aussi quelque chose qui nous fait du mal dans nos vies spirituelles, dans nos églises. C'est notre inconstance. Notre inconstance, nous n'arrivons pas à tenir bon sur le long terme. Nous n'arrivons pas à garder nos bonnes résolutions sur le long terme, on se fatigue. Cette femme-là, c'est une femme qui tient bon. Elle tient bon. Quel que soit ce qui se passe, elle reste bien plantée dans la maison de son Dieu. Nous avons plein de versets qui nous encouragent. Le juste tient bon, il dure, il résiste, il perdure. Le juste ne fuit pas. Le juste n'abdique pas. Le juste reste ferme. Il reste ferme, comme cet arbre planté. Le psaume 32, verset 6 nous dit qu'ainsi, tout homme te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront point. Que tout homme te prie au temps convenable, si des grandes eaux débordent, elles ne l'emporteront point. Quelle promesse pour notre vie de dire même si des grandes eaux viennent, elles ne m'emporteront pas. Dernier point, la floraison. Voilà. Il était bien là, la floraison, mais il était inversé. Oui, mais le témoignage, c'est la floraison, en fait. Oui, c'est ça. Oui, pardon, c'est la même chose. Oui. Donc, la floraison de l'arbre, elle témoigne de quelque chose. C'est le témoignage de sa vigueur, le témoignage de sa constance, de sa résistance, de sa sève. La Bible nous dit que les justes proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher et on ne trouve en lui aucune injustice. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Et ça reprend le Deutéronome 32, verset 4, qui nous dit « Il est le rocher, en parlant de Dieu, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Ça, c'est la proclamation du juste. Voici ce que le juste proclame. Voici son témoignage. Voici ce que l'on voit de lui. C'est que l'Éternel est juste, il n'y a lui en aucune iniquité. Et ça nous pose la question de qu'est-ce que je témoigne? Qu'est-ce que ma vie témoigne aux autres? Qu'est-ce que ma vie dit sur Dieu? Qu'est-ce que ma vie dit au sujet de Dieu? Qu'est-ce que l'on peut comprendre de Dieu quand on me voit? Qu'est-ce que l'on peut comprendre de Dieu quand on m'entend? Est-ce qu'on peut voir la miséricorde de Dieu? Est-ce qu'on peut voir la bonté de Dieu? Est-ce qu'on peut voir la patience de Dieu? Est-ce qu'on peut voir la justice de Dieu? Est-ce qu'on peut voir la vérité de Dieu? Qu'est-ce que ma vie dit sur Dieu? Qu'est-ce que ma vie témoigne sur Dieu? Le juste, lui, sa vie témoigne que l'Éternel est son rocher. Sa vie témoigne que les œuvres de Dieu sont parfaites. Sa vie témoigne que les voies de Dieu sont justes. Sa vie témoigne que Dieu est fidèle. Sa vie témoigne que Dieu est sans iniquité. Sa vie témoigne que Dieu est juste. Sa vie témoigne que Dieu est droit. Voici le témoignage du juste. Le psaume 67 nous dit: bénis-nous, Seigneur, et fais briller sur nous tous ton visage. Alors sur la terre, toutes les nations verront comment tu agis et sauront que tu es le Sauveur. Bénis-nous, Seigneur, et fais briller sur nous tous ton visage. Alors sur toute la terre, toutes les nations verront comment tu agis et sauront que tu es le Sauveur. Brille sur nous pour que les autres sachent. Dans la maison de notre Père, nous fleurissons, nous témoignons de qui est Dieu. Nous témoignons que Dieu agit, nous témoignons que Dieu est le Sauveur. En conclusion, la parole de Dieu nous dit, c'est une promesse, mais le Dieu de grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, verset 10. Il vous perfectionnera, il vous affermira, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. Voici ce que nous sommes lorsque nous sommes plantés dans la maison de notre Père. Que Dieu nous aide à y rester dans la maison de notre Père, à nous y enraciner, à grandir, à porter du fruit, à tenir bon, à témoigner de la personne de Dieu. Amen.